Bonjour, vous écoutez la voix du HR Spirit, le podcast Made by First Group. Je suis Céline Cussac, votre hôte, et j'ai le plaisir de recevoir au micro de ce podcast des professionnels de la fonction RH qui osent bousculer les lignes. À chaque épisode, découvrez comment ces femmes et ces hommes bâtissent leur vision d'une entreprise plus humaine, incarnent avec authenticité une fonction RH transformatrice et tentent de réenchanter le monde de l'entreprise. Un rendez-vous conversationnel qui se veut optimiste et décomplexé avec des passionnés du développement humain et du futur du travail. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Audrey Amicot, leader de la transformation de la fonction RH au sein de Leroy Merlin. Ensemble, nous allons parler de vision, d'intuition, de lignes rouges avec lesquelles danser pour craquer les sujets RH. Bonne écoute. Bonjour Audrey.
Bonjour Céline.
Je suis super contente de t'avoir au micro de la voix du HR Spirit et j'ai envie de te présenter à nos auditeurs très très brièvement pour démarrer. Audrey, tu as un parcours pur RH dans des entreprises très différentes telles que Vedior, Disneyland Paris, Sor et Leroy Merlin. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 10 ans à Disney. Tu étais HR BP, j'étais responsable learning et développement. Et déjà à l'époque, tu avais cette solarité qui te caractérise tant, avec ce large sourire généreux. Et c'est vrai Audrey, te rencontrer, c'est se connecter à une énergie de dingue, à un élan vital qui donne envie, qui fait peut-être même peur à certains, ça tu nous le diras tout à l'heure. En tout cas pour moi, tu incarnes véritablement une DRH visionnaire, engagée, qui n'a pas froid aux yeux. Tu es une femme de conviction, une professionnelle dotée d'une grande intuition, et une DRH qui aime et qui sait bousculer les lignes. Audrey, merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour parler Transfo RH. Alors, ma première question, ton parcours en RH, plutôt une vocation ou un heureux hasard ?
Alors déjà Céline, merci pour le portrait que tu as dressé de moi. Vous ne le voyez pas mais j'ai un large sourire. J'ai longtemps cru que c'était un hasard, justement, si aujourd'hui j'étais à la Transfo au sein de Leroy Merlin France, mais quand je fais un petit retour en arrière de mon parcours professionnel tel que tu viens de le faire là rapidement, je pense que j'ai toujours en fait insufflé cette notion de transformation, sauf que c'était certainement pas la mode il y a 10 ans, le mot transformation qui aujourd'hui a toutes les bouches, a toutes les discussions, on va dire, RH. Et je pense que j'ai toujours essayé de faire bousculer les lignes sur une autre façon, on va dire, de driver la fonction RH, mais que comme la notion de transfo n'était pas aussi, importante ou aussi vulgarisée, c'est ce qui fait que j'ai pu, comme tu le dis, un peu bousculer les gens. Mais dès que j'ai commencé dans la fonction RH, même quand j'étais HR BP, je voulais pas être juste guichet unique ou être, facteur RH. J'avais envie justement d'accompagner le business et vraiment de me dire en quoi je vais transformer la vie de mes managers et en quoi je vais transformer la vie des RH et quelque part en quoi moi je vais kiffer ma vie de RH. Mmh.
Donc tu es au bon endroit, au bon moment aujourd'hui en ayant intégré Leroy Merlin. Donc on va y revenir donc, sur le cœur de ton actualité et les enjeux justement que tu peux traiter. Quand on est directrice, en tout cas leader de la Transfo RH dans une boîte qui fête ses 100 ans en 2024 et qui a pour DG une femme de 28 ans, je pense bien évidemment à Agathe, mon pays, on baigne dans quelle énergie et on fait face à quel défi ?
Alors déjà, la transfo, comme je le disais juste avant, elle est ambiante, elle est partout. Et pour être totalement transparent, aujourd'hui, la transfo chez Leroy Merlin, c'est déjà de rattraper le retard. On a été une entreprise qui, pendant 100 ans, et c'est canon, franchement, quand même, quand Montrand a dit, mais en fait, les RH, ce sont les managers et les in fine, un peu les collaborateurs. Donc, quand on a ce parti pris là, on mise pas, on n'investit pas sur la fonction RH au sens développement, au sens IA, au sens digitalisation, au sens transformation. On part du principe que c'est tenu effectivement par les managers. Donc, déjà, la transformation qu'on a lancé aujourd'hui d'un point de vue RH, c'est tout simplement, entre guillemets, payer la dette, c'est-à-dire d'avoir des outils un peu classiques qui permettent juste déjà d'adresser, mais vraiment du régalien RH, que sont les entretiens annuels, que sont le temps de travail, que sont le learning. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est un énorme changement chez Leroy Merlin, où en fait déjà on fait tout à la mano, on va dire, c'est-à-dire qu'on n'achète pas des gros outils, des grosses prestations, et on ne s'adapte pas au marché. Aujourd'hui, moi j'arrive avec ce nouveau regard en disant C'est super ce qu'on peut faire en interne, mais allez voir aussi tout ce que fait l'externe et comment ça va nous faire gagner des années et des années, justement, en termes de maturité RH. Mmh. Et Agathe, qui vient d'arriver effectivement aujourd'hui, ça y est, elle a pris son poste, Agathe. Alors, ça montre déjà, lui ici, c'est pas comme ailleurs. Hein. Quand vous avez une DG qui a 28 ans, qui à 28 ans a déjà fait deux pays et qui est donc effectivement promue DG, Agathe, que j'ai rencontrée récemment, elle n'arrête pas de parler de transformation et elle dit que la transfo, c'est simple, en fait. Mmh. C'est très, très simple, en fait, et il faut l'incarner au plus... En fait, au plus à tous les collaborateurs et très rapidement. Et donc ça, c'est un élément hyper différenciant en termes de transfo. Elle l'incarne tellement justement Agathe avec sa simplicité et son sang vert qui coule entre ses veines.
Le sang vert, c'est le sang vert de tous les collaborateurs de Leroy Merlin, c'est
ouais,
ça, c'est un peu votre...
c'est ça, c'est notre mantra en fait aujourd'hui pour se reconnaître qu'on a une culture hyper forte en termes de valeur et en termes de reconnaissance en fait. Nous, on se reconnaît justement par ça. Rapidement, on se dit, ok, est-ce qu'il a ou pas le sang vert? Et c'est quoi avoir le sang vert? C'est juste avoir les valeurs qui sont vraiment caractéristiques de Leroy. On a travaillé toutes les deux hein, à Disney, Céline. Il fallait à Disney que en fait, les valeurs soient écrites. Mmh, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait les clés qui étaient écrites sur
quatre,
le mur,
les
justement.
Clés.
Mais en fait, chez Leroy, tu n'as pas besoin en fait, de les écrire. Elles sont... Et c'est ça la grande différence. Le ici, ce n'est pas comme ailleurs. Tu les verras nulle part. Mais en fait, tout le monde est capable de dire c'est quoi les valeurs en fait, de la boîte, dont l'authenticité, par exemple. Et ça, il n'y a pas besoin en fait, de l'écrire. Tous les gens l'incarnent. Et c'est ça, avoir le sang vert.
Génial. Elles sont nombreuses, ces valeurs?
Alors, on en a à peu près 5 ou 6, justement, que sont l'authenticité, la simplicité, l'esprit d'équipe, parce qu'on est une entreprise, effectivement, même si là, on atteint les 31 000 collaborateurs, le groupe presque 130 000, en fait, on a encore cette culture de PME, un peu cette culture très familiale, mais qui vient de notre histoire, hein, notre histoire avec Mullier. Et donc, c'est ça qui nous caractérise. C'est la notion de famille. Souvent, quand vous arrivez chez Leroy, c'est assez étonnant, d'ailleurs, les gens qui viennent de grosses boîtes, ils ont l'impression qu'ils vont arriver dans une boîte énorme aussi, 31 000, une entreprise. Et à chaque fois, ils disent, mais en fait, on a l'impression d'être dans une... Chacun, en fait, dans nos pénates, on va dire, d'être dans comme une petite PME. Donc, c'est super. Il y a énormément d'avantages. Mais quand, justement, vous voulez passer à l'ère un peu plus, on va dire, un peu plus internationale ou une ère un petit peu plus dans l'ère de la transformation, bah, c'est là où c'est un peu compliqué d'embarquer tout le monde qui, aujourd'hui... Pour qui aujourd'hui les magasins, c'est des territoires. C'est chacun a son magasin et sa façon de faire différente. Et c'est là où la transfo, c'est compliqué. Quand vous venez dire, la transfo, ça va embarquer à peu près tout le monde de la même façon. Bah là, c'est là où les drapeaux, de la représentation de ce qu'est la culture est un peu compliqué pour justement les gens de Leroy Merlin.
Alors, on parle beaucoup de l'entreprise de demain et de la nécessité de réussir le passage vers un monde du travail renouvelé. Comment vois-tu le futur du travail?
Alors, je le vois avec une nouvelle organisation RH, en fait, et c'est assez intéressant ta question parce qu'on est en plein dedans, on réfléchit à revoir complètement notre regard. Alors, déjà, nous, on n'est pas une DRH, on s'appelle PHET, ça s'appelle Patrimoine et Transformation Humaine.
Oui.
Donc c'est déjà pour ne pas faire comme tout le monde, on va dire, mais ce qui est très bien. Et donc on se dit demain, pour pouvoir répondre au futur du travail, il faut qu'on soit beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide. Une organisation, ce que moi j'appelle un peu, pas archaïque, mais simple, RH, ne répond plus aujourd'hui aux problèmes de demain. Je vous donne un exemple, il y a plein de boîtes aujourd'hui qui mettent en place des équipes, ce qui s'appelle des HR Problem Solvers, c'est-à-dire vraiment des équipes dédiées à venir prendre, que ce soit un problème digital, que ce soit un problème culturel, que ce soit un problème métier, on va dire, de venir prendre un sujet, d'aller le craquer par tous les prismes que je viens de vous citer pour pouvoir permettre aux opérationnels
de trouver des solutions,
tout de suite trouver une solution. C'est trop long, en fait, aujourd'hui, quand on dit qu'on va mettre en place un nouvel outil pour digitaliser l'onboarding, quand on dit qu'on va mettre un nouvel outil pour suivre la gestion des temps, le temps d'implémentation de ces outils sont trop longs parce qu'on est rattrapé aujourd'hui par la société, par les gens qui vous disent « mais moi je veux faire du télétravail, moi je veux travailler sur des hubs ». Donc c'est comment en fait gérer ces deux temporalités, un déploiement d'un outil qui prend considérablement du temps, mais en même temps cette notion effectivement du futur du travail qui fait que c'est aujourd'hui en fait que les collaborateurs se posent ces questions-là.
Ouais, donc c'est concilier les temps longs et temps courts.
Exactement.
Bousculer les lignes, pour toi ça veut dire quoi?
Bah, pour moi c'est bousculer les gens et ça vient en fait en... Vraiment en analogie à ce que tu as dit en préambule, moi je vois qu'aujourd'hui c'est facile, entre guillemets, si tu regardes d'une façon très froide, c'est facile d'implémenter un nouvel outil, c'est facile. Si en plus tu as un petit peu d'argent pour pouvoir le faire, c'est facile. mais par contre faire adhérer en fait le changement et en quoi ça va les bousculer, et c'est ça qui est compliqué. Et aujourd'hui, le roi, comme je te disais juste avant, c'est 100, on est à un peu plus de 140 magasins, mais chaque magasin fait comme il veut. Sauf que quand tu viens mettre des outils qui viennent industrialiser et standardiser, bah, chacun ne fait plus comme il veut. Et c'est là où Agathe, elle est hyper claire sur cette approche-là. Elle est la première DG de Leroy, quand même, à oser dire les mots standardisés et uniformisés. Thomas, c'était un super visionnaire, notre DG d'avant. Mais il savait que quand on utilisait ces termes-là, c'était un peu tabou, en fait, chez Leroy, vu que vraiment, nous, c'est la particularité du magasin, c'est ton magasin, quoi. Mmh. C'est ton magasin, ta façon de faire. Et Agathe, elle est hyper claire sur ça. Elle dit, on va standardiser, on va uniformiser. Ça va être notre 80-20. 80%, on va faire plus ou moins comme tout le monde, mais on va vous laisser 20% dans votre aire de jeu pour vous amuser, pour pouvoir innover, pour pouvoir être insolent. Ça fait partie de nos valeurs aussi, cette insolence un peu constructive. Mais il va falloir quand même rentrer dans le rang. Je grossis le trait, mais c'est ça vers ce vers quoi on tend là aujourd'hui.
Alors, tu parlais de tabou. Est-ce que c'est plus tabou ou est-ce que ça l'est? Mais qu'en tout cas, elle ose le dire, l'incarner et faire le pari d'embarquer en fait les collaborateurs.
Ouais, elle ose. Ouais. Et c'est là où elle est époustouflante avec ses 28 ans, justement, la façon dont elle ose dire les choses et des choses que je pense. En fait, je pense que beaucoup sont convaincus de ça, mais ont peur justement de renvoyer une image contradictoire à notre culture d'entreprise qui, quand même, depuis 100 ans, enfin, un des mantras portés depuis 100 ans, c'était il faut innover, il faut décaler. Quand on se dit décaler, c'est sortir du cadre, en fait. Mmh. Elle dit on va rentrer dans le cadre et on va se trouver des aires de jeu après chaque magasin, chaque entité, mais d'abord, on va rentrer dans le cadre et on va standardiser.
C'est intéressant. Est-ce qu'elle représente, est-ce qu'elle pourrait en tout cas représenter à tes yeux une forme de rôle modèle? Et quel rapport tu as, toi, avec les rôles modèles? Les DRH peuvent en être, en tout cas, moi je suis convaincue qu'ils ont un rôle.
Ouais, alors moi j'ai du mal avec ce terme, parce que comme je suis en train de déployer justement plein d'outils, on parle de corps modèle. En fait, j'ai du mal avec le rôle modèle, mais c'est peut-être aussi mon côté rebelle. Donc je pense qu'elle... En tout cas, Agathe, elle va être un modèle. Ce qui est sûr, c'est que là, elle commence justement, pour revenir à ta question sur elle, hein, c'est qu'elle commence à aller dans les magasins, à aller dans les services internes, et on sent qu'elle est en train d'insuffler quelque chose de nouveau, justement, et elle est en train d'incarner un nouveau modèle de leadership et de simplicité. Alors après, ça a toujours été chez nous, hein, notre DG avant aussi l'était, mais encore plus, et un discours hyper authentique et transparent, quitte même à choquer un petit peu, en fait. Donc, moi, ça me va bien pour s'inscrire après le rôle du RH derrière, qui suis plutôt authentique et qui n'ai pas peur de choquer. Elle m'ouvre vraiment la voie et... Enfin, elle m'ouvre la voie tout en me permettant de rester alignée à moi-même et d'être ce que j'ai toujours été, en fait.
Alors, justement, ça me fait penser, tu parles d'authenticité. Qu'est-ce que tu penses de l'authenticité versus l'exemplarité? Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que ça peut cohabiter?
Chez moi, en tout cas, ça cohabite. J'ai toujours été authentique. En fait, pour être totalement honnête, j'ai failli ne pas l'être quand je suis retournée chez Leroy il y a 2 ans, parce que j'y étais il y a 10 ans. Je suis partie. Et en fait, je pense qu'au début, je n'étais pas authentique. Je pense que j'ai essayé tout de suite de m'acculturer aux valeurs de l'entreprise, à me dire qu'il faut absolument avoir le sang vert, quitte à en perdre en fait mon identité. Et donc, j'ai failli perdre pied, je le reconnais, mais je me suis vite, en fait, réalignée par rapport à ça. Et après, je me suis dit, OK, il faut que je sois authentique, mais est-ce que c'est contradictoire, effectivement, avec, tu as dit, loyauté,
L'exemplarité.
En fait, pour moi, ça l'est pas. Je dois être exemplaire. Je dois porter les décisions d'Agathe. Je dois incarner, en fait, justement, ce qu'on me demande de faire. Après, si ça ne me correspond pas ou si c'est, on me demande de porter quelque chose qui ne me correspond pas, je l'exprimerai en fait en off, on va dire, à ma direction, mais je serai toujours le bon petit soldat. Et c'est en ça où je pense que, indépendamment malgré tout de ce qu'on demande de faire, sauf bien sûr des choses qui ne répondraient pas à la loi, on va dire, mais en tout cas, je pense que tu peux être exemplaire tout en étant authentique. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a aidé quand j'ai repris, quand je suis revenue chez Leroy il y a 2 ans. Ça m'a permis de garder cet état d'esprit, cet alignement personnel.
Et une manière de t'ancrer, dans le rôle de RH.
J'ai un rôle, justement, en fait, je vois ces jeunes générations-là qui arrivent, je vais avoir que 45 ans, mais quand même, qui se cherchent, en fait. Qui se disent, OK, cette entreprise, enfin, chez Leroy, la culture, elle est tellement forte. Tu peux, en fait, en perdre ton identité parce qu'il faut que t'elle s'en verre, en fait. Et je pense que justement, je me suis dit non, il faut que je montre aussi. Et puis c'était pour ma sauvegarde personnelle, pour être totalement transparente. Je me suis dit non, je peux avoir le sang vert tout en ayant en fait ma couleur à moi en fait.
Alors, j'ai envie de te poser une question pour un DRH décomplexé. Je sais que c'est une question qui ne te fera absolument pas peur. Le DRH est une personne comme tout le monde, avec ses parts de lumière et d'ombre. On parle beaucoup dans les médias de la fatigue, de l'usure que vivent les DRH au quotidien. Et finalement, toi qui es une personne si énergique, qui semble solide, j'aimerais que tu nous parles de comment tu tiens le coup face à des chantiers, à des projets qui parfois effectivement sont très énergivores.
Eh ben, comme je te disais, en toute transparence, à un moment, j'ai failli flancher et je me suis réalignée avec moi-même et je me suis remise au sport qui aujourd'hui me permet considérablement, quand je sens qu'il y a des sujets qui vont me faire franchir ma ligne rouge personnelle, pour me permettre de m'aérer. Donc aujourd'hui, une des façons pour moi d'oublier, c'est de prendre mes chaussures et d'aller courir en fait 10 km où là, en fait, ça me permet de remettre mes idées au clair, de repenser. J'ai eu aussi besoin, c'est assez étonnant, et tu vas voir, ça va te plaire ce que je vais te partager. J'ai jamais eu besoin de rien écrire sur mon corps, en fait, de faire un tatouage, de marquer quelque chose, en fait, pour rappeler ce que j'avais vécu. Vraiment, et ça a été compliqué le retour chez Leroy Merlin. Cette entreprise, elle est magnifique, elle a une culture super forte, mais qui justement, si t'es pas stable émotionnellement et personnellement, peut venir te bousculer. Et j'ai eu besoin de faire mes premiers tatouages pour venir expliquer en fait, et c'est personnel, quand les gens me demandent, je leur donne pas le sens, pour venir rappeler ce que j'avais vécu et que j'ai failli justement perdre pied, et que cette entreprise, elle est tellement, elle a des racines tellement fortes, que justement, si tu t'embarques pas là-dedans et si tu en fait, ne ressemble pas de la même façon à tout le monde, on va dire, ça peut vraiment te faire perdre pied. Et je me suis dit, je vais me faire tatouer quelque chose qui me permet tous les jours, parce que c'est sur mon avant-bras, de me rappeler que j'ai failli flancher, mais que je ne flancherai pas et que je me suis relevée.
Ouais, c'est intéressant et merci de ton témoignage. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que finalement, cette ligne rouge et ce risque de flancher est assez universel et il peut arriver à tout le monde. Quelle que soit l'entreprise, là tu parles d'ancrage et effectivement c'est important de pouvoir être ancré et rester lucide sur l'expérience que l'on vit, quelle que soit l'entreprise, pas qu'à Leroy Merlin. Et encore là c'est une expérience très, très riche et positive dont tu parles. Et le deuxième point c'est flancher, passer la ligne rouge. C'est quoi franchir la ligne rouge? Ça a été quoi toi ta ligne rouge?
J'ai la chance de faire partie de ces gens qui voient. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois, je l'ai vu cette ligne rouge en fait. Outre le fait de l'avoir senti en fait à l'intérieur de moi, vraiment je me rappelle très bien cette réunion où à un moment je l'ai vu. Vraiment j'ai baissé la tête, alors c'est au sens figuré hein, mais j'ai senti que si je continuais comme ça à me surinvestir et à ne pas accepter les faiblesses de Leroy Merlin, c'est une super boîte qui permet l'entrepreneuriat, l'initiative, mais c'est aussi parfois compliqué par son organisation, voilà, et ses couches, on va dire, de hiérarchie. Et je venais d'une boîte, ça faisait 10 ans que j'étais dans une boîte où tout était clair. Chez Leroy, tout n'est pas toujours clair. Et donc, je me rappelle très bien l'avoir vu cette ligne et je me suis dit, Audrey, c'est simple. Soit tu plonges, soit effectivement tu prends le recul. Et tu prends en fait de la hauteur et tu ne vois que les choses positives que justement cette entreprise peut t'apporter. Et depuis, je ne vois que ça et je revis complètement.
C'est là que la représentation qu'on peut avoir d'une situation est très personnelle et peut tout changer.
Exactement.
Tu as des peurs en tant que DRH par rapport à ta mission, hein, j'entends. Qu'est-ce qui te fait le plus peur?
Alors, je pense que ça fait vraiment pas partie de mon vocabulaire, le mot peur. Ça, c'est mon côté aussi rebelle de même pas peur, même pas cap aussi. Ça fait partie aussi de mon champ lexical. En fait, je pense que là, quand je vois comment ça doit se transformer, en fait, comment les entreprises doivent se transformer, in fine, comment les collaborateurs vont vivre, en fait, la transfo, moi, ce que j'appréhende, c'est comment en fait nos employés, nos 30 000 collaborateurs chez Leroy Merlin vont vivre cette transfo. Parce qu'on n'était pas jusque depuis peu une entreprise qui bouleversait les lignes, qui changeait par des outils, des process, des nouvelles façons de faire. Et là, de par la situation économique, de par Agathe qui aussi a des nouveaux entrants, de par l'obligation de bouger, c'est-à-dire il faut qu'on réinvente notre business model aussi, le retail, ok, mais enfin, c'est quoi demain? Justement, l'enjeu de l'omnicommerce, l'enjeu, enfin, quand on voit que Mano nous talonne énormément. Donc, il faut qu'on se renouvelle. Et donc, ce qui me fait peur, c'est plus ça. C'est comment nos collaborateurs qui ont le sang vert et qui ont leur roi, mais eux, ils ont tatoué ça sur leur peau, hein, pas comme moi.
Voilà. Oui, il y a un vrai sentiment d'appartenance.
Exactement, moi, c'est
fabuleux,
ça.
Qui est fabuleux.
Hein. Voilà, moi, c'est ça, en fait. C'est me dire comment on va expliquer et accompagner en fait, le changement pour ses collaborateurs. C'est plus ça qui me soucie.
Et qui est au cœur de la fonction même que tu, que tu occupes, qui est la transfo, la
transfo
RH. Si tu avais une baguette magique, t'en ferais quoi en tant que DRH ?
Ben, je bannirais ce mot transfo, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est le mot magique, justement. En fait, c'est tellement facile d'utiliser ce mot ou le mot change. Tout le monde, pareil, utilise ça. Et je me dis que moi, je serais hyper contente quand, justement, la transfo ne sera plus un service à part, ne sera plus, en fait, un département. Il sera inhérent à la fonction RH. Et je suis HRBP, je suis DRH, je suis directeur du développement des talents, mais en fait, je transforme la vie des collaborateurs, je transforme mes outils, je transforme mes process. Et c'est ça. Et je me dis que ce jour-là, on aura... C'est un peu comme quand on a vécu la révolution en fait, digitale, et maintenant on est sur la révolution de l'impact positif et RSE. On a créé des services dédiés, mais au final, c'est partie prenante des jobs de demain, quoi.
Oui, c'est tellement intégré.
C'est intégré.
Qu'on n'en parle plus comme étant
exactement.
En tout cas un objet de change.
Ouais.
Bon alors, quand tu auras rempli cette mission-là, qu'est-ce que tu feras ? Si tu pouvais ou si tu devais te reconvertir à l'ère de beaucoup de reconversions, tu ferais quoi ?
Mais je pense que justement, je continuerai de surfer sur cette notion de transfo et j'apporterai par contre pour des plus petites entreprises en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ouvrirai ma boîte, mon côté entrepreneur en fait qui dort en moi depuis très longtemps et je veux décider toute seule. Ça c'est mon caractère aussi qui fait que je me dis que je prendrai cette opportunité-là parce que toutes les boîtes n'ont pas la chance en fait d'avoir justement soit des équipes dédiées, soit après des équipes RH opérationnelles qui permettent de... Et je me dis que j'aimerais bien après diriger, oui, et justement cette expérience-là pour les PME qui elles aussi doivent pivoter, mais qui n'ont pas les ressources pour. Donc j'aimerais bien accompagner dans ce cadre-là.
Ok, super. Bon, bah écoute, on te le souhaite. Une dernière question. Quelle musique tu choisis avant d'entrer dans un comité de direction où tu vas défendre une idée à laquelle tu es la seule à croire ? C'est la dernière question et ça va nous permettre de finir en musique.
Alors je viendrai avec la BO en fait de Fight Club portée par Pixies. L'idée n'est pas de se battre en fait derrière cette chanson. L'idée est plutôt de montrer tout le côté justement impétueux et déterminé en fait. Je trouve que dans cette chanson on entend ça. Et puis malgré tout, je dois le reconnaître. Pour moi, le fight ça n'a jamais été quelque chose de négatif. Je trouve que ça fait avancer les choses et c'est souvent après un fight positif hein, que vous pouvez avoir justement en collectif ou avec vos pairs qui permet souvent de sortir de situations et de trouver des solutions qui répondent à tous. Et je dois reconnaître que j'aime bien quand même ça.
Ouais, et puis derrière le fight, moi j'entends cette vitalité en fait qui t'anime et qui est évidente. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces confidences. Merci pour ta confiance et on finit avec les Pixies. Merci
Céline.